Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, toujours avec Charles Magnin, l'économiste Pierre Rondeau, la journaliste à l'incorrect Juliette Briens et le journaliste maison Daniel Riolo. Dans un instant, le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC à 13h30. On parlera de cette épidémie d'antavirus sur un bateau de croisière. Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Est-ce qu'il y a des risques? L'OMS nous dit non, mais enfin, on a déjà vécu ça. Bon, on peut peut-être remettre les masques. En tout cas, on en parlera avec Robert Sebag et avec vous, Robert Sebag. Notre médecin infectiologue, ça ce sera à 13h30 et puis à 14h, eh bien, on parlera du PDG de Ryanair qui a décidé d'interdire l'alcool. Il veut interdire l'alcool dans les aéroports et dit il y a trop d'incidents dans les avions et la solution c'est d'interdire l'alcool surtout tôt le matin. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Eh bien, vous nous dites tout bien sûr au 3216 et sur le WhatsApp d'Estelle Midi.
Le 0612 424 424, c'est le numéro sur WhatsApp pour tous vos messages qu'on lit en direct.
Et puis, nous sommes évidemment avec Pierre-Antoine Damcourt, le répondeur, ce sera à 13h50, mais Pierre-Antoine est déjà là.
Mais oui, un petit coucou en passant. Alors, je sais que les supporters parisiens doivent avoir des étoiles dans les yeux ce matin. Je pense à Thierry, à Martin, Michel, Delphine, Hugo, Fabien, Mickaël, Mehdi,
Florian. Voilà, on va pas tous les citer là quand même.
C'est le nom des supporters du PSG qui sont pas allés bosser ce matin parce qu'ils se sont pris une caisse hier. Ouais. Donc voilà, ils sont 4768. On les embrasse. Oui, voilà, courage.
On va plutôt écouter un message.
On écoute un message, ouais. C'est parti.
Ouais, Estelle, ce fifou de Marseille, putain. Ils sont en finale. Putain, oh mon vieux, ça fait mal, hein, putain. J'en peux plus. Le PSG, ils sont en finale et nous, on est en dépression.
Attendez, il y a encore plein de belles échéances à venir pour l'OM, comme les vacances.
Voilà, plus que
deux matchs, tenez bon. Voilà. Allez, on se retrouve à 13h50 pour tous les autres messages.
Et tout de suite, c'est le zapping, le meilleur de l'actu sur RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Les GG ce matin sur RMC. Faut-il obliger les maires à afficher le portrait d'Emmanuel Macron? Le maire LFI de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a confirmé avoir décroché de son bureau le portrait officiel du président de la République. Le préfet de Seine-Saint-Denis l'a rappelé à l'ordre. Et pour Charles Consigny, l'avocat des GG, retirer le portrait d'Emmanuel Macron est inacceptable.
Tant qu'il y est, il n'a qu'à proclamer l'indépendance de Saint-Denis.
Oui.
Je veux dire, il a pas à s'arrêter en si bon chemin s'il est dans une démarche sécessionniste, qu'il aille au bout de son idée. Il a quand même un melon invraisemblable. À peine élu, il voulait virer tous les agents qui ne le soutenaient pas. Ensuite, deux semaines après, il se voyait président de la République. Maintenant, il refuse d'accrocher le portrait du président. Enfin, excusez-moi, il a décompensé. Il faut qu'il revienne sur terre. Vous savez, je crois que c'est l'article premier de la Constitution de la France, la République une et indivisible. Une et indivisible. Il n'y a pas Saint-Denis qui peut faire ce qu'il veut.
Alors, Bali Bakayoko qui retire le portrait d'Emmanuel Macron, est-ce que ça vous choque, Pierre Rondeau?
Ça ne me choque absolument pas. Là, il n'y a aucune loi qui impose à ce qu'on affiche le portrait du président. C'est un usage républicain. C'est un maire qui, évidemment et clairement, est en opposition politique avec Emmanuel Macron et le président Macron. Voilà, c'est un acte politique de la part d'un maire élu démocratiquement. Il a été élu en opposition avec la Macronie et le gouvernement. Il fait acte d'opposition. Et il retire le... Alors, où je vous dirais que c'est extrêmement désuet. Hein. C'est extrêmement petit
c'est
et mesquin.
C'est coutume désuète.
C'est petit et mesquin de le retirer.
Ah oui. Mais vous trouvez ça normal qu'en 2026, on continue d'afficher le portrait
président? Je trouve ça pas normal qu'il y ait un débat.
Ah bon.
La vérité, c'est que juste simplement, il le retire. C'est un élu LFI qui est clairement en opposition avec Emmanuel Macron. Il le retire, il fait ce qu'il veut, il a été élu démocratiquement. Il a été élu démocratiquement. Si les habitants de Saint-Denis l'acceptent, bah voilà, c'est le maire, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas d'obligation juridique, législative ou autre. Il n'y a aucune obligation, hormis un usage républicain, d'afficher le portrait du président. Il fait ce qu'il veut, il est dans l'opposition.
Et justement, Daniel Riolo, est-ce qu'on doit effectivement obliger les maires à afficher le portrait du président de la République? Enfin, ils font bien ce qu'ils veulent, non?
Je suis en total désaccord avec ce que vient de dire Pierre Rondeau et ce que tu dis toi également. L'usage républicain, c'est très important.
D'accord.
La tradition républicaine, c'est très important, de mon point de vue, évidemment. Si vous voulez ne pas être d'accord, vous avez le droit. Et si je suis élu et que je ne suis pas d'accord avec le président de la République, je ne suis pas de son parti ou je suis en opposition avec lui, je trouve que c'est encore mieux de le mettre. Ça veut dire que je respecte la République et la démocratie que d'afficher son portrait, parce que je respecte celui qui a été élu par le peuple français au suffrage universel. La preuve, et je pense que ça a une portée symbolique qui est très forte, de mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi, je pense que le maire qui fait ça ne respecte pas la démocratie, et ça en dit long sur ce que ferait ce parti s'il était à la tête de l'État. Je pense qu'il combattrait les opposants. Je pense qu'il combattrait les opposants. Je pense que c'est une pratique d'enlever le portrait de celui qui a été élu au suffrage universel par le peuple français. Je pense que c'est la preuve qu'on est prêt à ne pas respecter la démocratie si on n'est pas d'accord avec
Mais il n'est pas obligé de le faire.
Je pense que je suis pas complètement débile. J'ai compris. Je te parle de tradition républicaine.
Mais toi, tu trouves ça important, en fait.
La tradition républicaine, c'est très important.
D'accord.
Voilà, c'est dans les pays anglo-saxons, on appelle ça la common law. Évidemment, ça n'est pas la tradition française, mais la tradition républicaine, c'est très important de respecter ceux qui sont élus. Et je pense que le geste, classe ou élégant, on s'en fout, qui envoie un message de respect de la démocratie, c'est justement.
C'est pas porter atteinte à la démocratie que de retirer le portrait.
Moi, je pense que ça en dit long sur la façon dont tu vois la démocratie.
Oui, ça c'est sûr.
Et je pense que les LFistes, la façon dont ils la voient, la démocratie, c'est pas la même que la nôtre.
Alors là, c'est juste Bali-Bagay.
C'est justement de combattre, et pas uniquement par la démocratie et par le vote, ceux qui ne sont pas d'accord avec toi. Et moi, je pense que si le futur président n'est pas de leur bord, eux considèrent qu'aller même dans la rue, casser et se battre, se rebeller, c'est que, puisqu'ils sont, pour la plupart, ils ont en eux un côté révolution permanente, trotskiste.
C'est pas le NPA.
Oui, puis t'es pas obligé de casser. Tu peux vouloir faire la révolution sans casser.
Oui, non, mais surtout,
ça alimente
un discours qu'on entend parfois, mais sur d'autres sujets. Je pense qu'on a pu l'entendre aussi au moment des gilets jaunes, du Covid, etc. Côté, c'est pas mon président.
Et ça, en fait,
le fait de mettre le portrait d'Emmanuel Macron dans toutes les mairies, c'est pas pour dire toute la France doit penser comme Emmanuel Macron. C'est dire c'est le président de tous les Français, peu importe les partis, les opinions, etc.
Qu'il a été élu par la France.
Là, c'est un peu mesquin de dire voilà.
Juliette Briens.
Ouais, moi je vous cache pas que honnêtement j'ai d'autres chats à fouetter, d'autres combats à mener que les coups de buzz de Bali Bagayoko. Et j'ajouterais que pour moi un homme dont l'ambition est de désarmer la police, je n'attends rien de lui quoi. Et j'attends encore moins de lui qu'il respecte les usages républicains. Voilà, ça n'a aucune importance sur l'échelle de ce qui attend les habitants de Seine-Saint-Denis. Je pense que c'est vraiment pas très grave. Voilà. D'accord. C'est pas très grave. En tant qu'élu, je l'aurais jamais fait. Moi aussi, j'aime les traditions. Qu'on puisse les trouver désuètes ou pas. C'est symbolique, évidemment, d'avoir le portrait du président. Mais franchement.
Et si demain, Jean-Luc Mélenchon est élu président de la République, je pense qu'il sera ravi que son portrait soit affiché. Enfin, voilà.
C'est possible.
Il serait pas contre qu'on respecte l'usage républicain.
Mais on pourra poser la question aux élus RN de savoir s'ils afficheraient ou non le portrait de Jean-Luc Mélenchon.
Et tu crois que si jamais ils ne le faisaient pas, je penserais différemment?
Ah mais je t'ai jamais accusé. Hein.
Le suffrage universel, c'est quelque chose qui doit être respecté dans notre démocratie, dans notre République.
Les GG ce matin sur RMC, une nouvelle grève à la SNCF. En avez-vous assez? Vous savez, ça faisait longtemps que la SNCF n'avait pas été en grève. Ça nous manquait presque. Ouais. Sudrail, l'UNSA. Ça fait au moins 2 ans là.
Bon.
Je te jure, si, parce que maintenant ils sont remplacés quand ils font grève, donc évidemment ça a moins d'impact. Sudrail, l'UNSA, la CGT, la CFDT ont annoncé une grève commune le mercredi 10 juin. Ils dénoncent la multiplication des drames au sein de l'entreprise et exigent des négociations commerciales. Et pour Bruno Poncet, le cheminot des GG, cette grève est légitime.
Ah, évidemment.
On a 14 suicides depuis le début de l'année, et dont quelques-uns très marquants qui se sont mis sous étreint avec des rapports factuel avec le travail, donc il y a un vrai sujet. Et puis, juste pour faire simple, parce qu'on va pas passer 3 heures là-dessus, parce que je sais que ça va vous saouler, mais en fait, je vous rappelle qu'en 2018, on a fait une réforme ferroviaire, Édouard Philippe, donc c'est pour ça qu'Édouard Philippe, réforme ferroviaire qui indiquait que les cheminots qui allaient dans des boîtes privées qui sont créées depuis cette loi ferroviaire garderaient la même chose qu'avant, les mêmes conditions de travail, le même salaire. Aujourd'hui, on arrive à l'époque où ces boîtes commencent à fonctionner et on nous fait le contraire. On est en train de nous casser nos conditions de travail. Donc les gens vont pas se laisser faire. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi cet appel à la grève.
Est-ce que vous en avez assez des grèves à la SNCF, Pierre Rondeau? Est-ce que vous dites, bon, une petite grève de temps en temps, parce que les autres n'ont pas marché,
vous dire,
c'est la France, quoi.
On dit tout à l'heure, il faut respecter les traditions républicaines. Ouais, moi, je respecte les traditions françaises. La France est connue pour ses grèves, et ben voilà.
Première grève de l'ère Castex.
Première grève de l'ère Castex, ouais, président de la SNCF. Mais il me semble-t-il, à défaut de dire une bêtise, la grève des cheminots, mais donc, la dernière, c'était il y a 2 ans, mais on n'a pas eu entre-temps une grève des contrôleurs?
Oui, mais elle a été très peu suivie, parce qu'en fait, aujourd'hui, les cadres de la SNCF peuvent remplacer les...
Il y a les cheminots, il y a les contrôleurs, enfin bref.
Ils ne peuvent pas remplacer un conducteur de train.
Et là, en l'occurrence, et on pourrait aussi se poser la question, si à grève, est-ce qu'on la verra si les cadres dorénavant prennent la place des cheminots? Mais globalement, au-delà de ça, ce qui est sûr, c'est que c'est un droit républicain, constitutionnel. On a le droit de faire grève, on a le droit de défendre ses acquis. Je vais pas chercher à critiquer ces grévistes. Je vais pas sortir le discours, ils nous prennent en otage. C'est un droit et je le respecte quoi qu'il arrive, même si je suis directement touché.
Ça vous fait sourire, même si voilà, les revendications ne prêtent pas à sourire évidemment de la SNCF. Non, mais Juliette Briens,
les revendications, c'est qu'ils nous inventent toujours quelque chose. Alors ils dénoncent les drames, c'est ça, l'augmentation des drames, hein, et exigent des négociations commerciales.
Salariales,
ouais.
Oui, ça. Alors, c'est toujours en fait finalement trouver des excuses bidons à la grève pour au final, c'est un peu comme le sketch des Inconnus, c'est revalorisation des salaires et plus d'argent à la fin du mois. Et en fait finalement,
c'est dommageable de demander une valorisation salariale.
Non, mais ça n'a rien à voir avec la demande initiale. Tu comprends, on a l'impression qu'ils se foutent de ta gueule.
Ils disent il y a des drames parce que finalement.
Mais dis que tu veux de la thune, arrête de dire que c'est parce qu'il y a des drames.
Non, ils disent qu'il y a eu plusieurs accidents du travail, des arrêts maladie, des suicides, des réorganisations internes qui préjudiciables à la santé des agents. Voilà ce que disent les syndicats qui s'inquiètent donc pour la santé des cheminots et qui veulent également des négociations salariales, oui, plus d'argent.
Si t'es très bien payé,
après. Et la santé des cheminots, pourquoi? Pour le charbon,
c'est quoi? Peut-être moins en arrêt maladie, tu vois, il y a des choses. Si t'es heureux dans ton travail et que t'es bien payé.
C'est parce que le gars qui met sa charrette dans la locomotive,
je crois qu'il n'y a plus ce genre de gens.
Tout le monde veut voir son salaire augmenter.
Il
n'y
a plus le charbon dans la locomotive.
Daniel.
Tout le monde veut voir son salaire augmenter et tout le monde n'a pas le loisir de se mettre en grève et de bloquer la France pour y parvenir.
Alors, bloquer la France, calmons-nous.
On va préciser qu'on en est au stade du préavis de grève.
C'est que dans
un peu plus d'un mois. Donc ça laisse le temps, en théorie,
à la direction. Ça ira bien.
On appelle ça négocier. Dans le jargon de Daniel, c'est lâcher. Mais oui, en théorie, ils peuvent s'asseoir autour d'une table et trouver un terrain d'entente. Oui.
Ça peut arriver, Daniel. Vous savez, c'est dans toutes les entreprises.
Hein. Et moi, la SNCF, je n'attends rien des SNCF. De toute façon, je ne prends plus le train. Ça coûte. Mais c'est terrible à quel point ça coûte cher.
Pas toujours.
Ça coûte très cher.
Daniel.
Et dans les wagons,
ça sent le pipi dans les wagons.
Bien sûr que si, ça sent le pipi.
Et ça cartonne. Là, c'était des chiffres RMC révélés hier. La fréquentation des trains, alors les trains du quotidien, les TER, etc., explosent depuis 2 mois face à la crise du carburant. De plus en plus de Français prennent le train tous les jours pour aller au travail.
Et il y a plein de contrôleurs qui nous écoutent, qui écoutent RMC. Et c'est quand même un plaisir à chaque fois de discuter comme ça.
C'est pas à cause d'eux que ça sent le pipi.
Mais ça ne sent pas le pipi.
J'ai pas dit que c'était à cause d'eux.
C'est arrivé une seule fois et tu crois que maintenant ça arrive dans tous les.
Non.
Il y a certains trains qui sont en retard.
À chaque fois, je prends le train. D'ailleurs, lundi, je dois reprendre le train pour la tournée d'heure.
Vous vous préparez mentalement?
Je sais déjà.
D'ailleurs, vous allez où lundi?
D'ailleurs, très marrant, c'est la panique. Tout le monde dit, il faut partir plus tôt et tout parce que cette ligne est toujours en retard.
Mais
pourquoi c'est toujours en retard? Normalement, c'est une exception.
C'est quelle ligne que vous prenez?
Nous allons à Valence, dans la Drôme. C'est une ligne en retard, il paraît. Moi, je ne suis pas expert en SNCF.
C'est sympa de savoir que la ligne de Paris-Valence, c'est pipi.
N'importe quoi. Bon, taisez-vous.
Ah non, c'est
les GG ce matin sur RMC. Édouard Philippe a-t-il déjà perdu la présidentielle? Selon un baromètre, le maire du Havre baisse de 5 points dans un sondage sur les compétences pour être un bon président. Édouard Philippe repasse même derrière Marine Le Pen et Jordan Bardella. Le soufflet est retombé pour Valérie, auditrice des GG.
Mais là, je rends mon tablier, je vais pleurer, je sais plus quoi faire. Non, mais franchement, Édouard Philippe, le centre droit mot, il n'a ni charisme, les idées. Bon, j'attends de voir soi-disant son programme, enfin, on les connaît déjà. Il a été Premier ministre, qu'a-t-il fait? Je voudrais quand même avoir un bilan de ce qu'il a fait. Hein. Moi, je trouve qu'il manque de peps, il ne donne pas envie.
Alors, le soufflet est retombé pour Valérie, auditrice des GG. Bon, il n'est jamais eu non plus, il n'est jamais vraiment très monté très haut.
Il a vraiment eu un soufflet, quoi. Est-ce qu'il est monté à un moment? Mais attention, sur les sondages.
Il est parti un peu trop.
Oui, alors, En 2022, un an avant la présidentielle 2022, dans les sondages, on avait Jean-Luc Mélenchon à 7%, la candidate ou le candidat avant les primaires de la gauche du PS à 18%, on avait un autre candidat à 13%, et au final, ça donnait Jean-Luc Mélenchon à 22%. Donc, je suis toujours très sceptique et très dubitatif sur les sondages un an avant une élection présidentielle. Il va y avoir une campagne. Édouard Philippe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Il n'incarne pas forcément un
souffle. Mais on est à un an de la présidentielle. Oui. Et peut-être qu'il va tenir campagne
pendant
un an. Mais
tu l'imagines tout d'un coup susciter un espoir fou.
Je vous rappelle
te soumettra, tu diras ça.
Un an avant, Jean-Luc Mélenchon était à 8% dans les sondages. Il termine à 22%. Il y a la campagne. Et la campagne, Édouard Philippe peut très bien la tenir et peut très bien percer et découvrir une âme charismatique qui fasse rêver les Français et finir président. Le deuxième élément qui n'est pas anodin, c'est que c'est le seul candidat à l'heure actuelle capable de battre Jordan Bardella au second tour.
Voilà.
C'est vrai. Bon, on est un peu plus dans
la réalité, c'est ce que vient de dire Pierre. C'est qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je te disais, tu peux prendre n'importe quel candidat, tu auras la même conclusion au sujet du charisme ou de l'idée qu'il puisse être président. La seule certitude qu'on a.
On peut pas enlever que Jean-Luc Mélenchon a du charisme, par exemple.
La seule certitude qu'on a, c'est le candidat RN qui sera, je vais prendre une fourchette très large, entre 25 et 35.
Oui. Donc, plutôt 35, mais oui.
25 et 35, donc qualifié pour le second tour. Voilà. Et derrière, tous sont convaincus que ça peut se jouer entre 14 et 16. Donc là, ça va être la bagarre pour être entre 14 et 16. Et de ce candidat-là qui aura 14 et 16 et qualifié pour le deuxième tour, si c'est Édouard Philippe, il y a de grandes chances qu'il gagne au final.
Mais c'est pas la question.
Et si
en fait,
c'est le gars de LFI, donc Mélenchon.
Là, tu nous fais un truc, là, tu nous fais une étude politique.
Mais alors, qu'est-ce que tu voulais savoir, en fait?
La guerre t'enfonce des portes ouvertes, excuse-moi de te le dire.
Et donc?
Là, on est en train de parler.
Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte, en fait?
Derrière la porte, en fait, la question qu'on se pose. Moi, je suis désolée. Jean-Luc Mélenchon, je comprends qu'il puisse susciter un espoir parmi ses électeurs. Il a du charisme, on peut dire ce qu'on veut. Édouard Philippe, est-ce qu'aujourd'hui...
Il est repoussoir pour plus de 80% des
c'est
gens.
C'est pas ce que je te dis. Est-ce qu'aujourd'hui, Édouard Philippe, il peut susciter un espoir, un engouement? Est-ce qu'il peut? Tiens, le charisme, ça se trouve pas comme ça au bout de la rue.
Personne,
tu l'as ou tu l'as pas. Ce qui est, il y a des gens qui
peux-tu me citer un candidat d'après toi qui en a?
Là, pour l'instant,
donne-moi une idée.
J'en ai pas comme ça, mais pour le coup, tu peux te dire que tu vois pas trop Édouard Philippe, même si voilà, il y a certainement plein d'interprétations.
La raison, c'est que s'il y avait un candidat, en effet, qui avait un vrai charisme, un vrai élan, on se poserait pas la question.
Exactement.
Un an avant, on serait pas en train de chercher.
Exactement.
Et tout le monde n'y croirait pas. Là, chaque politique, de Marine Tondelier à Bruno Retailleau, est persuadé qu'il est légitime pour être le candidat au second tour, parce que comme le disait Daniel, ça va se jouer à 15-16%
pour être qualifié. Et donc, vous dites la même chose que moi, qu'il n'y en a pas un.
Mais si Édouard Philippe avait du charisme, le match serait déjà plié. Il serait à 25 dans les sondages.
Est-ce que quelqu'un d'autre en a? Tu vas avoir François Hollande, le comeback. Tu vas avoir Mélenchon. Tu vas avoir Le Pen ou Bardella. Et vous allez tous me dire, alors si c'est Bardella, il est trop jeune. Si c'est l'autre, il a pas de charisme.
C'est pas ça.
Vous dites, à l'époque, trois semaines, on disait, il va plier le match après les municipales. On disait, c'est bon, il a un élan, c'est le maire du Havre. C'est parti jusqu'à la présidentielle.
Ce qui est très inquiétant.
À l'époque, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, ils avaient tous les deux du charisme. Que tu votes pour eux ou pas, ils avaient du charisme. Parce que tu le vois, ils avaient tous les deux du charisme.
Ségolène Royal, pour moi, n'en avait pas.
Et ils incarnaient quelque chose. Le charisme, c'est pas le programme politique, c'est ce qu'il dégage aujourd'hui. Édouard Philippe, il dégage pas une passion
incroyable. Forcément, pour être président, il faut avoir ça.
Je sais pas.
Parce que le problème, c'est qu'après, pour Sarkozy, on a dit qu'il y a eu du charisme, et derrière, c'était une cata. Donc, pardon, mais le charisme, qu'est-ce qu'on en a à cirer, en fait?
Ce qui est quand même inquiétant pour lui, je pense, c'est que pour l'instant, il était sur la stratégie d'être muet, et normalement, la stratégie d'être muet, elle paye. C'est-à-dire que t'es jamais autant apprécié que quand tu ne dis rien. Et donc là, c'est ce qu'il poursuit, c'est-à-dire qu'il ne dit rien, et il s'effondre dans les sondages. Alors, pourquoi? Comment? Qu'est-ce qui se passe? C'est pour lui, je pense que ça va être une vraie question, et ça va peut-être être le moment justement de reprendre la parole et d'incarner quelque chose. Parce que pour l'instant, il n'incarne rien. Donc, qu'est-ce qu'il va incarner? Peut-être une politique bien plus à droite que prévu. Peut-être, on verra quoi. Mais il est temps, en tout cas, qu'on ait un programme.
Il n'a pas encore dit, effectivement.
Ou une ligne.
Dans un instant, je suis désolée, mais voilà, on prend les mêmes, on recommence peut-être. On va parler de cette inquiétude qui grandit. Après la découverte d'une épidémie d'antavirus sur un bateau de croisière, 3 morts déjà, plusieurs cas suspects, on ne sait pas grand-chose. Il y a juste l'OMS qui nous dit non, mais vous inquiétez pas. Bon, il y a 5 ans, il nous disait à peu près la même chose. Alors, êtes-vous inquiet? Commencez-vous à ressentir un petit peu d'angoisse, voilà, après cette épidémie d'antavirus? On en parlera dans un instant avec vous au 32-16, et puis on aura Robert Sewag, notre médecin infectiologue, qui va pouvoir répondre à toutes nos questions, nos interrogations et peut-être même nos angoisses. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h28, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec une équipe très en forme. Aujourd'hui, puisque autour de la table, on a Charles Magnin, on a Pierre Rondeau, on a Daniel Riolo et Juliette Briens. Et on va s'intéresser tout de suite dans Estelle Midi à la psychose du jour. Et c'est celle qui nous guette peut-être après l'épidémie d'antivirus sur un bateau de croisière. 3 personnes sont mortes après avoir été contaminées par ce virus qui est mortel dans 38% des cas. Très peu d'infos filtrent sur les autres cas suspects. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, se veut rassurante, mais quand même, Charles, ça nous rappelle un petit quelque chose.
Oui, mais pas de panique, Estelle. Bah, je ne pense pas que la situation soit similaire à celle du début de la pandémie de Covid-19. Voilà ce que dit le directeur général de l'OMS. Le risque est faible pour le reste du monde, a-t-il déclaré hier soir depuis Genève. Outre les 3 décès, il évoque 8 cas suspects, dont 2 membres d'équipage malades, une personne cas contact à symptomatiques qui ont décollé mercredi du Cap-Vert à bord de 2 avions médicalisés. On a aussi appris ce matin qu'une hôtesse de l'air...
Les avions médicalisés, c'est qu'ils ne doivent pas être très bien quand même. Hein. Pardon. Hein.
C'est vrai. Eh ben,
non, excusez-moi.
En tout cas, qu'ils sont suivis de très près. Une hôtesse de l'air de la compagnie aérienne KLM est en cours de dépistage à l'antivirus après avoir été en contact, selon les médias néerlandais, avec une passagère du navire décédée depuis. Le bateau, lui, est attendu samedi aux Canaries, mais les 88 passagers, 59 membres d'équipage devront rester à bord jusqu'à l'arrivée des avions qui les rapatrieront dans leurs pays respectifs. Il y a 5 Français à bord. Ils se portent bien, a indiqué ce matin le ministre des Affaires étrangères, qui précise que l'un d'eux est un cas contact car il a été en lien rapproché avec une personne malade.
Voilà. La période d'incubation peut aller jusqu'à 6 semaines.
Il faut bien isoler alors le cas contact. Voilà.
Entre 1 et 6 semaines, le taux de mortalité est estimé à 40% pour celle d'entre
eux. 40%, vous vous rendez compte ? Mais c'est affreux. Il y a quasiment une chance sur deux d'en mourir.
Bon. Surtout qu'il ne débarque jamais, cet homme-là.
Est-ce que vous êtes inquiet à cause de cette épidémie d'antivirus aujourd'hui? Enfin, allez, il y a quelques jours, on en souriait. J'ai quand même l'impression qu'on en sourit un petit peu moins, Pierre Rondeau.
Je ne suis pas, contrairement à vous, hypochondriaque. Enfin, je ne pense pas l'être. J'ai envie de croire les autorités compétentes qui sont bien plus compétentes que moi sur le sujet. L'OMS dit ne pas vous inquiéter.
Oui, bah, elle disait la même chose pendant le Covid.
Oui, mais le Covid, on n'y connaissait rien.
C'est elle disait, ça va, c'est en Chine. Bon.
C'est une nouvelle maladie, donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Là, en l'occurrence, c'est sur un paquebot, c'est au large du Cap-Vert. Pourquoi s'inquiéter? Les cas contacts.
Parce qu'ils ont peut-être été contaminés il y a 6 semaines.
Oui, mais ils vont être isolés. Non,
si. Bon, si. Bah, écoutez. Il y a une hôtesse de l'air qui n'a pas pris le bateau et qui
en l'état actuel des choses, parce que le PSG est en finale, j'ai pas envie de m'inquiéter. J'ai pas envie de broyer du noir et j'ai pas envie de me dire qu'on va au devant d'une prochaine pandémie mondiale avec des confinements que je ne respecterai pas. J'ai envie
de. Oh mon Dieu, Pierre.
Un peu de responsabilité.
On verra ce que ça donnera comme maladie, comme mortalité.
Quel rebelle,
vous avez
mignon cet esprit de rebelle.
Si vous mourrez dans un cas sur deux, croyez-moi, vous allez respecter.
Oui, on verra comment ça va évoluer et si effectivement les mutations du virus. Enfin bref, en l'état actuel des choses, non, je n'ai pas peur. Non, je suis positive. Et non, je ne crois pas qu'on va au devant d'une pandémie mondiale.
Eh bien, nous aurons Robert Sebag, notre médecin.
Confirmera mes dires.
Dans quelques instants, pas sûr. Juliette Briens, c'est ce que vous avez commencé à ressortir les masques de vos placards.
Non, mais après. A priori, j'ai quand même l'impression que la situation est pas mal sous contrôle. En plus, c'est des gens qui avaient pris un voyage dans des zones un petit peu, en gros, tropicales. Hein. C'est de là que vient l'infection. Et a priori,
le problème, c'est que ça revient.
Oui, j'ai pas prévu un voyage dans la Pampa d'ici quelques semaines. Donc voilà.
J'ai compris comment ça marchait.
Ils vont arriver. Et alors, c'est quand même un coup de chance, même si l'histoire est terrifiante et que c'est dramatique pour les 3 personnes qui sont mortes. Le coup de chance, c'est quand même que l'infection se soit déclarée sur un bateau complètement confiné en plein milieu de l'océan, qui empêche justement la propagation de commencer.
Mais ils sont en train de débarquer.
En revanche,
à
Ténéré, là où je rigole moins, c'est quand on me dit que les mecs vont débarquer dans les Canaries, alors que c'est quand même là que je vais aller passer toutes mes vacances d'été. Si on pouvait éviter de se prendre une armée de lépreux, genre deux mois avant mes vacances d'été, ce serait pas mal.
Voilà. Alors attendez, vous dites la situation est bien maîtrisée. Ben, je vous dis que non. Et pourquoi ? Parce que ce matin sur RMC, on a eu le témoignage d'une passagère du bateau. Manifestement, le virus, il n'a pas été.
Elle est déjà partie, elle est descendue.
Il n'a pas été pris très au sérieux au départ, écoutez.
Il y en a certains, je vois, qui minimisent les choses. Il y a eu un grand barbecue sur le bateau, comme si de rien n'était. Alors, il y a la distanciation sociale, mais c'est depuis 3 jours seulement. Et le port du masque aussi est obligatoire, encore qu'il y en a des tas qui ne le mettent pas. Après, on fait ce qu'on veut sur le bateau. On nous dit d'être raisonnable. Voilà. Quand on a des communications maintenant, c'est par haut-parleur dans les chambres. Mais avant, on nous rassemblait tous dans le salon, et cela jusqu'à dimanche. Toutes les mesures qui sont prises actuellement sont bonnes, mais elles ont été prises dimanche, c'est-à-dire trop tard.
Mais ça rappelle tellement le Covid, avec ce rassemblement évangélique, tous ces supporters de foot qui allaient... Non mais c'est incroyable. Et Daniel, c'est marrant parce qu'au début, il en souriait. Et au fur et à mesure de l'émission, il est 13h33. Il est tout blême. Ça va, Daniel?
Non mais moi, avoir peur, pas peur, je m'en fous, j'attends. J'observe, je suis attentif.
Vous allez acheter des masques?
Ça sert à rien de se mettre en panique.
Sur ton émission.
Les masques, il y en a toujours à la maison, c'est prêt, au cas où. Et puis, une fois que Robert Sebag m'aura tranquillisé, j'irai mieux. Mais comme Robert, il a peut-être fait la fête hier avec le match du PSG.
Il est bien clair d'esprit.
J'ai peur que son. J'espère qu'il a bien retrouvé tous ses esprits pour bien nous éclairer.
Robert Sebag, spécialiste mondial des maladies infectieuses à l'hôpital de la Salpêtrière, est avec nous.
On est là.
Bonjour Robert.
Bonjour.
Salut Robert.
Robert, bon,
écoutez, je suis plongé dans le hantavirus depuis 2-3 jours.
Ah, alors.
On n'est pas en phase du coronavirus, qui est un virus tout à fait nouveau. On connaît les hantavirus. Il y a à peu près 200 cas dans le monde. Il y a deux choses importantes à savoir. Je reviendrai sur les cas précis aujourd'hui. C'est qu'il existe deux. D'abord, il y a plusieurs souches de hantavirus.
Oui.
Il y a une souche qu'on appelle plutôt sud-africaine et américaine, qui semblerait qu'on appelle la souche andine, ande. Et il semblerait que ce soit celle-ci qui a touché les gens dont on parle. Et puis vous avez une souche européenne et asiatique avec des symptômes très différents. La souche andine, c'est plus, si vous voulez, des syndromes respiratoires qui peuvent être mortels. Et vous avez raison de rappeler que c'est 38% de mortalité.
C'est énorme.
Quand on est infecté, parce qu'il y a des cas symptomatiques, j'y reviendrai. Alors que la forme européenne et la forme asiatique, c'est davantage des fièvres hémorragiques et des troubles rénaux. D'ailleurs, c'est l'armée américaine pendant la guerre de Corée, écoutez-moi, pendant la guerre de Corée, dans les années 50, qui a attrapé des fièvres, des problèmes rénaux, on ne savait pas ce que c'était. Et ces hantavirus, c'est pas inconnu comme le coronavirus à l'époque, on les a découverts, on les a isolés, ces hantavirus, en 1978. Et ça s'appelle hantavirus parce que c'est le nom d'une rivière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui s'appelle Antal. Et c'est pour ça qu'ils appellent antivirus.
D'accord.
Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le problème, j'ai cru vous entendre, on a un problème, c'est la durée d'incubation.
Voilà.
Qui nous fait effectivement douter, puisqu'on considère que sur les antivirus, la durée d'incubation, elle est comprise entre 2-10, à peu près, ça peut aller jusqu'à 6 semaines. Ce qui nous fait penser peut-être, allez, on se calme, ce qui nous fait penser peut-être que les gens qui ont été contaminés, qui sont morts, le couple sur le bateau, il y en a eu 3, étaient peut-être contaminés quand ils étaient en Argentine et qu'ils ont effectivement contracté les symptômes de la maladie beaucoup plus tard sur le bateau.
C'est ce que dit l'OMS, d'ailleurs, que manifestement, ils ont contracté le virus avant.
Voilà. Bon. Deuxièmement, il faut savoir que les hantavirus, la transmission interhumaine, elle est très très faible. Sauf sur cette souche-là, elle est un peu plus importante, mais avec une proximité très 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 forte. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est un couple.
Mais il y a une troisième personne qui est morte, Robert. Alors, à moins que le monsieur ait été polygame...
Peut-être qu'ils étaient à trois dans la cabine.
Hein. Alors, comme on l'a connu pour le virus, vous avez des personnes, Estelle, qui sont des portes asymptomatiques, mais qui peuvent être effectivement transmises. Mais je répète que la transmission par voie interhumaine, donc respiratoire, puisque la contamination, elle se fait à travers de déjections d'urine, de sel, de rongeurs, et qui se vaporisent un petit peu, et qui sont dans l'air comme des poussières, et les gens se contractent en respirant. Donc voilà où on est aujourd'hui. Il faut savoir raison garder. Il n'y a pas de traitement particulier.
Ouais, mais il y a 8 cas. Il y a 3 morts et là, il y a 8 cas. Ils sont en avion médicalisé, Robert. Excusez-moi.
Je sais. Non, mais je vous excuse.
Ah oui.
On va les traiter. On va les voir. Le traitement, il est symptomatique. Quand il y a des problèmes respiratoires, on les met en réanimation respiratoire. Et c'est pas systématiquement. Les personnes décédées étaient des personnes toujours pareilles, un petit peu âgées, avec un système immunitaire.
Oui, 70 ans.
Il n'y a pas d'immunité, collective par définition, parce qu'il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas de traitement. Ah. Il faut être vigilant. Mais moi, je ne pense pas qu'on soit parti sur quelque chose de type coronavirus pandémique.
D'accord.
Je pense effectivement comme mes collègues de l'OMS, mais il faut être vigilant, il faut regarder ce que vont devenir ces cas. Je vous répète que la problématique de cette maladie, c'est la durée d'incubation. Donc c'est pour ça qu'il faut attendre. Alors c'est vrai que moi je pensais, si vous voulez, que c'était une chance que ce soit sur un bateau, parce que c'est un confinement obligatoire. Ben, les gens, on peut les mettre en quarantaine et attendre. Bon, apparemment, on va les débarquer, mais j'espère que les centres espagnols sont capables de faire des séquençages pour voir exactement de quelle souche virale d'antivirus ils ont, et puis surtout d'avoir des centres de réanimation s'il y a des manifestations respiratoires qui apparaissent.
Alors restez avec nous, Robert Sebag, parce que on a en tout cas des messages sur le WhatsApp et peut-être des questions, Charles.
Oui, alors j'ai Nicolas qui nous dit on va mettre Estelle dans une grande bulle stérile, ça la protégera des virus, on la sent très inquiète. Valérie aussi qui nous dit je n'étais pas vraiment angoissée.
Puis elle a écouté Robert Sebag.
J'ai écouté Estelle d'abord, qui m'a transmis son angoisse. Nous dit Valérie. Bon, vous êtes nombreux aussi, tout simplement, à saluer Robert Sebag. Bah oui, il vous manque pour certains. Bah vous ouais. Nous le dites. Je pense à Arnaud aussi, à Mohamed qui nous l'écrit. Et puis oui, j'ai Serge qui nous demande. Robert, ça ressemble beaucoup à tous les discours qu'on a entendus au début du Covid. Ne vous inquiétez pas, on va attendre, etc. Est-ce que dans 3 semaines, on peut nous dire, oh là là, en fait, c'est beaucoup plus grave que prévu?
Non, moi je dis pas ça, je dis simplement regardez tous les cas, si vous voulez, les gens qu'on a mis en quarantaine, les gens des avions, puisqu'on recherche 80 personnes, parce qu'il y a eu ce fameux vol entre Sainte-Hélène et Johannesburg, on recherche 80 passagers qui auraient pu être en contact. Je répète qu'à notre connaissance, moi je suis très calme là-dessus, à notre connaissance, la transmission interhumaine de ce virus, elle est très faible. Elle existe, c'est très très proche des couples, donc il faut voir sur les personnes de contact et on agira en conséquence. Mais il faut savoir que les formes, par exemple, qu'on a en Europe et tout, il y a une mortalité beaucoup plus faible, mais la forme andine, celle dont on parle, effectivement, la mortalité est importante.
Ça veut dire quoi, intra-humaine, Robert ?
D'humain à humain. En tout cas, il y a un autre signe qui ne trompe pas, Robert Sebag, c'est que depuis hier, il y a des revenants sur les plateaux. Vous, Robert Sebag, mais également Martin Blachier, Bruno Megarman. Et ça nous rappelle le Covid,
Le professeur Raoult, on y a échappé ou pas ?
Ah oui. Ah,
tant mieux. Toutes les radios, toutes les télés, ça ne s'arrête pas, mais vous, c'était prioritaire.
Hein. Ah. Oui, non, mais ça, j'entends bien, Robert, mais ça, quand même, ça veut dire qu'il y a une inquiétude. Parce que pour le coup, vous, évidemment, on vous a vu tout le temps. Mais
tout le traumatisme de la Covid revient quand on entend parler de ça. Rappelez-vous le bateau aussi, pendant la Covid. Vous vous rappelez ce bateau?
Oui, non, pas du bateau. Moi.
Mais oui, le Princesse, le croisière Princesse.
Voilà. Tout ça remonte à la surface. Il y a une sorte de mauvais souvenir, d'angoisse qui remonte. Donc je crois qu'il faut savoir raison garder. On est des spécialistes. On regarde ça de près tous les cas, les publications, puis on avertira.
On va ressortir les attestations de sortie, là.
Une transmission respiratoire très forte comme l'était le Covid. Mais, oui, c'est un nouveau virus, le Covid.
Pardonne-moi, Robert, mais je pense, j'imagine, il y a d'autres gens qui se posent la même question, mais j'arrive pas à comprendre le truc intra-humain. C'est comment ça, c'est-à-dire, il faut un rapport sexuel, il faut quoi pour que ça,
Écouté, c'est des gouttelettes, il te l'a dit.
Par voie respiratoire, les gouttelettes.
Oui, c'est comme,
la transmission.
Comme pour le Covid.
Alors, attends, comment on se le passe?
Quand tu parles.
Les formes respiratoires, effectivement, c'est une transmission interhumaine par voie respiratoire, par les gouttelettes, si tu veux.
Oui, mais t'as dit, Robert, que c'était faible, cette transmission.
Ouais. Mais il faut parler de très près.
Je répète qu'elle est faible.
Et possible.
C'est faible quand tu...
Elle existe, elle est possible. Elle est possible, c'est pour ça qu'on contrôle tout ça, mais elle n'est pas aussi forte que l'était le Covid. C'est ça que je veux dire.
Robert, est-ce que quand même, par mesure préventive, est-ce qu'on rachèterait pas un petit peu de masques et de gants, là?
Alors, écoutez, très honnêtement, moi, je pense que ça mange pas de pain, comme on dit, avec beaucoup de bon sens. Si les gens sont inquiets, ils peuvent porter le masque, mais il faut pas rentrer dans une sorte de psychose là-dessus. Faites confiance aux spécialistes, on regarde ça de près, on regarde tous les examens qui sortent, et puis on va agir, on va être à vue. Moi, je dis pas, c'est grave, c'est pas grave. Je suis beaucoup moins inquiet que ce qu'on a pu être au début de la Covid. Parce que là, c'est un virus nouveau, avec une contagiosité très très forte, ce qui n'est pas le cas des antivirus. Vous savez, les antivirus, il y en a 200 à 300 cas par an.
Oui, 38% de mortalité. En tout cas, ça nous a fait hyper plaisir. Mais en tout cas, merci. Non, à mon gueulez pas, ça me rappelle des souvenirs, Robert.
Faut pas l'attraper, c'est tout.
Merci. Merci beaucoup.
Ne te fais pas faucillonner dessus.
Robert Sebag, d'avoir été avec nous. À mon avis, on va le rappeler assez fréquemment, Robert Sebag. On va voir comment ça tourne.
Non, attendez.
Ça va se tasser. J'étais en train de penser un truc. Vous vous souvenez des plexiglas?
Oui.
Je sais pas où ils sont, ce dossier à midi.
Vous pouvez, si vous le voulez, porter un masque. Est-ce que Estelle, demain, vous allez porter un masque pendant l'émission? Par prévention. Par peur.
Je je ne serai pas là demain, mais lundi.
Nous sommes le 8 mai demain.
Mais lundi, oui, Pierre, bien sûr, oui. je vais aller rechercher les plexis dans la cave d'RMC. À mon avis, je ne sais pas du tout.
Tu fais le pont demain.
Oui, écoutez, je fais le pont, mais ça va.
Prends ton soutien à la SNCF.
Je ne pars pas en croisière, donc tout va bien. Mais juste ta question, vous avez des bons souvenirs, tiens, du confinement, Daniel Riolo. Est-ce que vous travailliez pendant le confinement?
Oui, nous on bossait tous les soirs, on a continué. D'accord. L'émission. J'ai de bons souvenirs, oui.
Ah oui.
J'ai de bons souvenirs d'émissions qui sont partis un peu dans tous les sens, parce que ouais. Forcément il n'y a pas d'actualité foot. C'est une sorte de libre antenne géante. Et j'en ai des bons et des pas bons, parce qu'au bout d'un moment c'était pesant de rien faire, mais ça s'est très bien passé. On était en famille et ça s'est très bien passé.
Juliette Briens,
moi je détestais.
Ah ouais.
Pire période de l'humanité, les comportements humains me dégoûtaient, je me suis ennuyée, j'étais dans mon 27 mètres carrés, j'ai pas vu le... Voilà, je descendais que pour aller faire mes courses, remonter, je me suis ennuyée, j'étais en télétravail, c'était nul, enfin, j'ai détesté. Et ce qui était pire encore, ça a été le déconfinement. Parce que je m'attendais à ce qu'on enlève les chaînes en fait d'un seul coup.
Ah bah non.
Je vais dire, maintenant vous êtes libre. Et quand je me suis rendu compte qu'on l'était pas du tout, ça m'a vraiment refoutu un coup.
D'accord. Ah oui, donc ça a pas été une belle période.
Ah non.
Vous, le confinement. Et vous, Pierre Rondeau?
Pareil, j'ai détesté. Et je soupçonne même avoir fait une petite dépression pendant le premier confinement. Je me suis retrouvé après une rupture tout seul. Avec mon chat.
Ah oui, quand on est seul, oui, forcément.
Le premier confinement, encore le 2, 3, 4, pas respecté, on faisait n'importe quoi. Mais le premier, on était inquiets, on avait peur. Ma famille était en Bretagne, ma mère avait eu le Covid à Saint-Malo et je pouvais même pas la voir. Et j'ai détesté cette période, vraiment.
En tout cas, vous savez quoi? On va se dire One Life.
On va se
dire One Life. Voilà, pour cette épidémie d'antivirus. Et on va vous emmener en vacances, allez. Mais pas en croisière. On vous emmène dans des clubs bel en bras, Charles, avec RMC. Car antivirus free.
Oh là là, un sens de la transition.
One Life, Charles.
Magnifique. On part sur moi et après, bam, les vacances.
Youpi.
Profitons-en, pendant qu'il en est encore temps. 38% de létalité, ce sera le chiffre du jour.
C'est positif,
c'est
là.
Partons en vacances, Charles.
Club et hôtel Bel en Bras, toute la semaine sur RMC, on vous offre des vacances, des séjours d'une valeur de 2000 euros, 45 destinations à choisir. Vous envoyez le mot vacances par SMS au 732-16. Vacances au pluriel par SMS au 732-16. Et vous l'entendez, Estelle sera ravie de vous tirer au sort et de vous accueillir tout à l'heure pour vous offrir ce séjour.
Et on vous avait posé la question quand même, est-ce que vous êtes inquiet par rapport à cette épidémie d'antivirus, Charles?
Non, Estelle, vous n'êtes pas inquiet.
Ça m'étonne.
À 74%.
Bah, excusez-moi, il y a pas quand même un quart des gens qui sont inquiets, hein, Charles.
Oui, alors je crois qu'Estelle a beaucoup voté sur les réseaux pendant le débat.
Elle a 8 comptes.
Exactement. Dans un instant, Pierre-Antoine Damcourt qui va nous distraire avant que nous meurions tous de cette épidémie. Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt. Et puis après, on parle voyage en avion avec le PDG de Ryanair qui veut interdire l'alcool dans les aéroports. Bonne ou mauvaise idée? On en débat avec vous dans un instant au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h50, vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et tout de suite, c'est le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
RMC, Estelle Midi.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt.
Ça va, Pierre-Antoine?
Oui, super, Estelle. Alors, l'événement hier, évidemment, c'est la victoire du PSG, mais c'est aussi cette phrase, Estelle, que vous avez prononcée à 13h34 et qui a bouleversé le pays tout entier.
Mais écoutez, une essoreuse, c'est au moins, c'est un, enfin franchement, diamètre de 30 cm, ça me prend un placard. Je vais pas sacrifier dans ma kitchenette. Je vais pas sacrifier un placard pour une essoreuse.
Oh là là.
Estelle n'a pas d'essoreuse à salade,
car elle n'a pas de place chez elle. Ça me fend le cœur. Ça a bouleversé nos auditeurs au point qu'ils nous ont laissé un message. Ils ont monté un comité.
Depuis des années, elle vit une terrible tragédie, seule, dans son coin, sans se plaindre, mais elle souffre. Oui, Estelle Denis souffre car elle ne possède pas assez d'espace chez elle pour posséder une essoreuse à salade. Scarole, laitue, roquette, ça fait trop longtemps qu'elle en est privée. Alors ensemble, agissons. Faites un don à la Fondation Estelle Denis pour qu'elle puisse s'acheter un loft à Paris pour pouvoir ranger une essoreuse à salade. Merci à tous.
On va y arriver, c'est beau, hein. On va y arriver, Estelle. Les gens se sont mobilisés. Regardez, c'est plein de pesticides. Bravo. J'ai regardé sur la cagnotte, on est à 12 euros. Donc pour le loft, c'est pas gagné.
Non, mais pour les soros,
c'est bon. On est large. Ah, super, ouf. Allez,
ça me touche.
On enchaîne. Message suivant.
Ouais, bonjour, c'est Patrick de Clermont-Ferrand. J'ai vu une interview de Michel Simès sur le hantavirus qui disait qu'on n'avait aucune raison de s'inquiéter. Donc, comme il avait dit que le coronavirus, c'était une petite grippette, eh ben ma femme, elle vient d'aller acheter 800 rouleaux de PQ, 30 kilos de pâtes et du gel hydroalcoolique. Allez, bon confinement à tous.
Ouais. D'ailleurs, en cas de confinement, Estelle nous disait pendant la pub qu'elle accueille toute l'équipe d'Estelle Midi dans sa petite maison en Bretagne.
Ça va être... je suis en travaux.
On finit les travaux tous ensemble. Daniel, vous savez faire de la charpente?
Oui, aussi,
il fera les pâtes.
Daniel n'aime pas la Bretagne.
Ça c'est pas vrai. Vous êtes plutôt Bretagne ou Normandie, Daniel?
Les deux, j'aime bien, mais deux jours.
C'est bien.
Ça ne suffira pas pour le confinement, Daniel.
Ça ne suffit.
Deux jours, c'est bien, parce qu'après il pleut.
Tu t'en fous, t'es confiné.
Allez, on va continuer ce programme parce que là, on part loin. Message suivant.
Ouais, salut, c'est Edgar Gropiron, président des JO 2030. Hier, Jean Castex est venu nous rencontrer pour nous dire que la SNCF allait nous soutenir et nous aider à fond dans l'organisation. Donc c'est vraiment génial et je... Mesdames, messieurs, suite à un mouvement de grève, les Jeux Olympiques d'hiver initialement prévus en février 2030 partiront avec un retard de 4 ans environ. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.
Ah, pauvre Edgar. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Allez, message suivant.
Hey, salut les petits, la compagnie de RMC, c'est Rémi Jean-Jean, Rémi Jean-Zac. Hey, j'ai vu que le patron de Ryanair voulait interdire l'alcool dans les aéroports. Eh ben, puisque c'est comme ça, j'ai décidé que je prendrais ma bagnole pour aller à Paris. Allez, c'est parti! Ah, merde! C'est quoi ce platane qui traverse sans regarder, la merde?
Toujours avec modération, bien sûr, Rémi, bah évidemment. Oui. Allez, message suivant.
Oui, bonjour Estelle, c'est Karim Nedjari, le big boss. Voilà, je t'appelle sur ton 06 pour te dire que c'est bon. Hein, comme tu me l'as demandé, la saison prochaine, tous les chroniqueurs seront remplacés par l'intelligence artificielle. Voilà, hein, et comme tu me disais, ça changera pas de cette année où l'intelligence était déjà assez artificielle en plateau.
Oh non.
Évidemment, leurs salaires seront directement ajoutés au tien. Voilà, bisous, je t'embrasse.
Super, merci Estelle. On la remercie Estelle. Vous me remplacez ou pas, du coup?
Je vais voir. Non, vous restez parce que j'ai quand même besoin de me...
Pour votre café,
bah ouais.
Bon, allez, merci, c'est bon, je reste. Tiens, vous n'avez pas un petit peu chaud là sur le plateau?
Si, hein,
on a un
chaud.
Petit peu, ouais.
Non.
Et on a peut-être la solution, Daniel, puisqu'on a une petite pub. Ah ouais, vous le savez.
Une canicule, un pic de chaleur, une ambiance un peu trop caliente. Cet été, offrez-vous le meilleur pour faire redescendre la température avec le climatiseur Dembélé.
Ouais.
Le climatiseur Dembélé est capable de faire redescendre vos événements de 20 degrés en seulement quelques secondes.
Grâce au climatiseur Dembélé, j'ai réussi à transformer de l'eau en glaçons en moins de 3 secondes.
Wow! Le climatiseur Dembélé, approuvé par les Allemands. Franzose Qualität. Et pour un climatiseur Dembélé acheté, une perceuse Swarovski offerte.
Ah bah allez, on va l'installer, on l'achète.
Exactement.
Et nous, on efface tous les messages et lundi, on recommence. Salut.
Le répondeur de Pierre-Antoine Damcourt, tous les jours, 13h50 dans Estelle Midi et évidemment en podcast, rmc.fr, l'appli RMC et toutes les plateformes de téléchargement. On a entendu un message, tiens, sur le PDG de Ryanair, ouais, qui veut interdire l'alcool dans les aéroports. Il y a eu énormément d'incidents ces derniers temps dans les avions. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Est-ce que vous aussi, vous picolez à l'aéroport avant de prendre l'avion? Bah écoute,
comme Estelle. Non, pardon.
Pas du tout.
Non, un petit jus de tomate. Toujours un jus de tomate.
Toujours un jus de tomate. Voilà. Avec du sel de céleri.
Il n'y a pas du champagne en business, Estelle?
Je suis pas en business, enfin, écoutez.
Ah bon,
je ne prends que du low cost.
Oh,
pas du tout.
Bah, pour faire Paris-Brest.
Après, on ne sait pas s'il veut interdire l'alcool aussi dans les salons.
Ah, bah là, ce sera un scandale.
Ah, bah oui, ce serait terrible. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de salons lounge à Beauvais.
Il y a eu des révolutions pour moins que ça.
En tout cas, interdire l'alcool dans les aéroport. Bonne ou mauvaise idée, on en débat avec vous dans un instant au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.